Test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre un YouTuber parler de sa chaîne Indian Cook. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 7. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Les youtubeurs ou les influenceurs, comme on les appelle, ont envahi Internet depuis quelques années. Alors le but, en fait, c'est simple, c'est de faire des vidéos pour mettre en avant des produits envoyés par des marques, mais aussi pour certains, leur talent. C'était l'image du manceau Julien Barre, qui a monté sa chaîne YouTube Indian Cook. Et son objectif, c'est déjà, d'une, de partager sa passion pour la cuisine indienne, mais aussi les bienfaits de ses épices. Il est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous avez créé votre chaîne YouTube autour de la culture indienne, et plus précisément de la cuisine indienne.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des vidéos sur Internet pour faire connaître vos talents de cuisinier?
Déjà, c'est une histoire de passion, parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé la cuisine. Et donc, c'est vrai que suite à ça, j'ai fait un bac pro en hôtellerie-restauration. Après, j'ai travaillé un peu dans la cuisine en globalité. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas me remettre à la cuisine, puis vraiment dans la cuisine indienne, parce que je me suis dit, c'est mes origines, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et on tente l'aventure, et franchement, je suis vraiment content du résultat.
Est-ce que c'est quelque chose qui manquait un petit peu, par exemple, au Mans, cette culture indienne?
Ah oui, je pense, oui, totalement. Bon, je sais qu'il y a quand même des restos indiens sur le Mans, mais je sais pas, je trouvais que c'était assez effacé. On entend plus parler de la... Par exemple, la cuisine chinoise, c'est vrai, on en entend beaucoup. Mais la cuisine indienne, je trouvais que non, et je me suis dit, bon, je pense que j'ai ma place et que je compte bien m'y mettre, enfin, voilà.
Alors justement, à l'heure où tous les cuisiniers sont défenseurs du fait maison, du qualitatif, du frais, qu'est-ce qui vous différencie?
C'est les épices. C'est là où j'arrive à me démarquer, surtout que maintenant les gens ils apprécient de plus en plus, surtout que on sait que les épices c'est quand même bon pour la santé. Il y a surtout en Inde, on a quand même pas mal d'épices qui sont à des fins médicinales, et je pense que ça c'est ce qui peut me mettre en avant.
Où vous allez chercher vos produits? Est-ce que vous en importez aussi certains?
Toutes les épices, je les prends au magasin chinois, mais c'est de la marque de l'Inde. Je précise parce que moi je travaille que avec ces épices-là. Après je m'en fais quand même importer de là-bas aussi, grâce à la famille. Après au niveau des légumes, j'ai de la chance parce que mon père il est passionné de jardinage, donc du coup je prends tout avec lui.
C'est du frais, on est d'accord? C'est du fait maison.
Fait maison.
Donc il n'y a rien de transformé, il n'y a rien de générique, tout est fait main.
Tout est fait main. Même la base de la cuisine indienne, par exemple, c'est du ghee, c'est un beurre indien. Et moi, non, je l'achète et je le fais moi-même, même pour les recettes sur YouTube.
Est-ce que vous avez des retours de ça, des gens qui vous suivent? Vous avez plusieurs milliers d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Est-ce que les gens vous reconnaissent, vous suivent? Est-ce qu'ils vous demandent des conseils aussi?
Oui. Je suis vraiment content du résultat et c'est ça aussi qui fait que j'ai envie d'avancer. Par exemple, un dessert que j'ai fait qui est assez typique. Et là, les gens me disent, je le reconnais quand je suis allé en Inde, j'ai mangé ça, je vais le réessayer. Puis après, on me demande des petits conseils. Et puis même, maintenant, j'ai même des demandes. Tiens, je pourrais avoir cette recette-là et tout. Donc je me dis, oui.
C'est quoi le projet pour la suite? Est-ce que pour 2019, il y a des projets dans les tiroirs?
Oui, il y en a. Donc j'ai commencé à faire l'écriture de mon livre.
D'accord.
Donc j'aimerais avoir un livre de cuisine à peu près d'une cinquantaine de pages.
Alors vous êtes en passe de monter votre entreprise. Oui. Et comment ça va se passer? Est-ce que vous avez envie de continuer de faire ça à la maison, de livrer à domicile, d'avoir un pied-à-terre et d'avoir un restaurant?
Moi, ça serait vraiment du traiteur, vraiment, parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup la convivialité, tout ça, et je pense que de faire des mariages, de faire des anniversaires, des baptêmes, enfin, vraiment plein d'événements différents, mais que dans un aspect de convivialité.
Merci beaucoup, Julien.
Merci beaucoup.
Les youtubeurs ou les influenceurs, comme on les appelle, ont envahi Internet depuis quelques années. Alors le but, en fait, c'est simple, c'est de faire des vidéos pour mettre en avant des produits envoyés par des marques, mais aussi pour certains, leur talent. C'était l'image du manceau Julien Barre, qui a monté sa chaîne YouTube Indian Cook. Et son objectif, c'est déjà, d'une, de partager sa passion pour la cuisine indienne, mais aussi les bienfaits de ses épices. Il est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous avez créé votre chaîne YouTube autour de la culture indienne, et plus précisément de la cuisine indienne.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des vidéos sur Internet pour faire connaître vos talents de cuisinier ?
Déjà, c'est une histoire de passion, parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé la cuisine. Et donc, c'est vrai que suite à ça, donc, j'ai fait un bac pro en hôtellerie-restauration. Après, j'ai travaillé un peu dans la cuisine en globalité. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas me remettre à la cuisine, plus vraiment dans la cuisine indienne, parce que je me suis dit, c'est mes origines. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? On tente l'aventure et franchement, je suis vraiment content du résultat.
Est-ce que c'est quelque chose qui manquait un petit peu, par exemple, au Mans, cette culture indienne?
Ah oui, je pense, oui, totalement. Bon, je sais qu'il y a quand même des restos indiens sur le Mans, mais je sais pas, je trouvais que c'était assez effacé. On entend plus parler de la... Par exemple, la cuisine chinoise, c'est vrai, on en entend beaucoup. Mais la cuisine indienne, je trouvais que non. Et je me suis dit, bon, bah, je pense que j'ai ma place et que je compte bien m'y mettre. Enfin, voilà.
Alors justement, à l'heure où tous les cuisiniers sont défenseurs du fait maison, du qualitatif, du frais, qu'est-ce qui vous différencie?
C'est les épices. C'est là où j'arrive à me démarquer, surtout que maintenant les gens ils apprécient de plus en plus, surtout que on sait que les épices c'est quand même bon pour la santé. Il y a surtout en Inde, on a quand même pas mal d'épices qui sont à des fins médicinales, et je pense que ça c'est ce qui peut me mettre en avant.
Où vous allez chercher vos produits? Est-ce que vous en importez aussi certains?
Toutes les épices, donc bah je les prends au magasin chinois, mais c'est de la marque de l'Inde. Je précise parce que moi je travaille que avec ces épices là. Après bon, je m'en fais quand même importer de là-bas aussi, bah, grâce à la famille. Après au niveau des légumes, bon, bah, j'ai de la chance parce que mon père, il est passionné de jardinage. Donc, du coup, je prends tout avec lui.
C'est du frais, on est d'accord? C'est du fait maison.
Fait maison.
Donc, il n'y a rien de transformé, il n'y a rien de générique, tout est fait main.
Tout est fait main. Même la base de la cuisine indienne, par exemple, c'est du ghee, c'est un beurre indien. Et moi, non, je l'achète et je le fais moi-même, même pour les recettes sur YouTube.
Est-ce que vous avez des retours de ça, des gens qui vous suivent? Vous avez plusieurs milliers d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Est-ce que les gens vous reconnaissent, vous suivent? Est-ce qu'ils vous demandent des conseils aussi?
Oui, oui. Je suis vraiment content du résultat et c'est ça aussi qui fait que j'ai envie d'avancer. Par exemple, un dessert que j'ai fait qui est assez typique. Et là, les gens me disent, ah, je le reconnais quand je en Inde, j'ai mangé ça, je vais le réessayer. Puis après, on me demande des petits conseils. Et puis même, maintenant, j'ai même des demandes. Tiens, je pourrais avoir cette recette-là et tout. Donc, je me dis, bon, bah oui, oui.
C'est quoi le projet pour la suite? Est-ce que pour 2019, il y a des projets dans les tiroirs?
Oui, oui, il y en a. Donc, j'ai commencé à faire l'écriture de mon livre.
D'accord.
Donc, j'aimerais avoir un livre de cuisine à peu près d'une cinquantaine de pages.
Alors, vous êtes en passe de monter votre entreprise. Oui. Et comment ça va se passer? Est-ce que vous avez envie de continuer de faire ça à la maison, de livrer à domicile, d'avoir un pied-à-terre et d'avoir un restaurant?
Moi, ça serait vraiment du traiteur, vraiment, parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup la convivialité, tout ça, et je pense que de faire des mariages, de faire des anniversaires, des baptêmes, enfin, vraiment plein d'événements différents, mais que dans un aspect de convivialité.
Merci beaucoup, Julien.
Merci beaucoup.
Exercice 2. Vous allez entendre une interview avec l'artiste Laurence Jenkel. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, complétez les phrases 1 à 7 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Laurence Jenkel, vous êtes artiste, peintre, plasticienne, sculpteur ou sculptrice? Les deux, mon capitaine, j'aurais tendance à dire. Et le bonbon est votre marque de création. Est-ce que ça ne serait pas aussi votre Madeleine de Proust?
C'est exactement ça. C'est ma petite Madeleine à moi. Et c'est vrai que ce bonbon, je l'ai travaillé maintenant depuis tellement d'années. Il fait vraiment partie intégrante de moi. Et je ne me vois pas l'arrêter. D'ailleurs, je les décline constamment. Donc toujours des nouveaux matériaux, des nouvelles tailles, des associations de matériaux. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis surtout, c'est cette torsion qui est mon sujet de prédilection, puisque chaque pièce, chaque sculpture bonbon est différente de par cette spirale, cette torsion, qui fait que chaque œuvre est unique. C'est toujours un drapé, une torsion différente. Et j'ai eu envie, justement, de maintenant décliner cette torsion avec d'autres sujets, c'est-à-dire d'appliquer ma torsion à n'importe quel objet du quotidien. Et au moins, je peux m'exprimer.
Exactement. Les bonbons, quand même, on le disait, c'est votre langage artistique. Oui. Ce sont des bonbons géants. On en a vu des images, vous déambulez au milieu de ces bonbons. Ce bonbon, évidemment, c'est quelque chose de merveilleux, c'est dans l'inconscient de l'enfance. Mais vous, c'est parce que vous n'en avez pas mangé, c'est ça?
Étant enfant, oui.
On va remercier nos parents de ne pas vous en avoir donné.
Un seul bonbon à la maison, et c'est vrai que grâce à eux, j'ai pu justement avoir envie de me venger, de me rebeller et de pouvoir utiliser ce sujet du bonbon comme mon sujet principal de création.
Alors vous avez un parcours assez incroyable parce que vous êtes une véritable autodidacte. Un jour, on décide de prendre des cours du soir pour assouvir sa passion et vous devenez une artiste de renommée internationale. C'est quand même fou, votre vie.
C'est vrai. C'est un parcours assez atypique, mais je pense qu'on est tous un petit peu artistes, en fait, au fond de soi-même. Et moi, j'avais cette envie de créer, ce besoin. Et par contre, c'est vrai, quand on n'a pas eu la chance de faire d'école d'art, on a envie aussi de se familiariser un peu avec différentes techniques. Et puis après, on s'essaie à des bricolages et tas de choses qui, au final, peuvent constituer une véritable œuvre. Et c'est vrai que ce bonbon, personne n'y croyait au démarrage. Et je suis très, très heureuse d'avoir suivi seulement mon instinct et de l'avoir imposé à travers le monde.
C'est une telle réussite. On retrouve vos bonbons pour la haie d'honneur des présidents du sommet du G20. Ça claque quand même, ça, sur un CV.
C'était quelque chose, oui, de très fort. Hein. Et très inhabituel, et personne n'y croyait non plus. On m'a dit, mais non, on ne mélange pas politique, de l'art, ça ne va pas du tout ensemble. Non, c'est vrai que ça peut ne pas aller ensemble, mais pourquoi pas? Et des bonbons, c'est un sujet tellement simple au demeurant et qui touche tout le monde, tout un chacun. Donc même les hommes politiques ont été très sensibilisés avec ces sculptures bonbons. Et puis chaque pays, c'était les pays du G20, donc aujourd'hui, ces drapeaux d'ailleurs sont maintenant à New York, puisqu'il y a une exposition avec le parcours aussi.
Dont on va reparler. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur votre technique du wrapping. Donc vous travaillez avec du plexiglas, vous avez travaillé aussi avec la résine en glacis. C'est une matière quand même particulière aussi à utiliser, ça demande aussi de la force de travail.
Absolument, et chaque pièce est donc unique, mais c'est vrai que j'ai démarré avec le plexiglas que je fais fondre, je fais chauffer, on va dire, dans un four, et ensuite je viens le travailler puisqu'il est malléable quand il est chaud, et c'est toujours une torsion, un drapé différent.
Laurence Jenkel, vous êtes artiste, peintre, plasticienne, sculpteur ou sculptrice? Les deux, mon capitaine, j'aurais tendance à dire. Et le bonbon est votre marque de création. Est-ce que ça ne serait pas aussi votre Madeleine de Proust?
C'est exactement ça. C'est ma petite Madeleine à moi. Et c'est vrai que ce bonbon, je l'ai travaillé maintenant depuis tellement d'années. Il fait vraiment partie intégrante de moi et je ne me vois pas l'arrêter. D'ailleurs, je les décline constamment, donc toujours des nouveaux matériaux, des nouvelles tailles, des associations de matériaux. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis surtout, c'est cette torsion qui est mon sujet de prédilection, puisque chaque pièce, chaque sculpture bonbon est différente de par cette spirale, cette torsion, qui fait que chaque œuvre est unique. C'est toujours un drapé, une torsion différente. Et j'ai eu envie, justement, de maintenant décliner cette torsion avec d'autres sujets, c'est-à-dire d'appliquer ma torsion à n'importe quel objet du quotidien. Et au moins, je peux m'exprimer.
Exactement. Les bonbons, quand même, on le disait, c'est votre langage artistique. Oui. Ce sont des bonbons géants. On en a vu des images, vous déambulez au milieu de ces bonbons. Ce bonbon, évidemment, c'est quelque chose de merveilleux, c'est dans l'inconscient de l'enfance. Mais vous, c'est parce que vous n'en avez pas mangé, c'est ça?
Étant enfant, oui.
On va remercier vos parents de ne pas vous en avoir donné.
Un seul bonbon à la maison, et c'est vrai que grâce à eux, j'ai pu justement avoir envie de me venger, de me rebeller et de pouvoir utiliser ce sujet du bonbon comme mon sujet principal de création.
Alors vous avez un parcours assez incroyable parce que vous êtes une véritable autodidacte. Un jour, on décide de prendre des cours du soir pour assouvir sa passion et vous devenez une artiste de renommée internationale. C'est quand même fou, votre vie.
C'est vrai. C'est un parcours assez atypique, mais je pense qu'on est tous un petit peu artistes, en fait, au fond de soi-même. Et moi, j'avais cette envie de créer, ce besoin. Et par contre, c'est vrai que quand on n'a pas eu la chance de faire d'école d'art, on a envie aussi de se familiariser un peu avec différentes techniques. Et puis après, on s'essaie à des bricolages et tas de choses qui, au final, peuvent constituer une véritable œuvre. Et c'est vrai que ce bonbon, personne n'y croyait au démarrage. Et je suis très, très heureuse d'avoir suivi seulement mon instinct et de l'avoir imposé à travers le monde.
C'est une telle réussite. On retrouve vos bonbons pour la haie d'honneur des présidents du sommet du G20. Ça claque quand même, ça, sur un CV.
C'était quelque chose, oui, de très fort. Hein. Et très inhabituel, et personne n'y croyait non plus. On m'a dit, mais non, on ne mélange pas politique, de l'art, ça ne va pas du tout ensemble. Non, c'est vrai que ça peut ne pas aller ensemble, mais pourquoi pas? Et des bonbons, c'est un sujet tellement simple au demeurant et qui touche tout le monde, tout un chacun. Donc même les hommes politiques ont été très sensibilisés avec ces sculptures bonbons. Et puis chaque pays, c'était les pays du G20, donc aujourd'hui, ces drapeaux d'ailleurs sont maintenant à New York, puisqu'il y a une exposition avec le parcours aussi.
Dont on va reparler. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur votre technique du wrapping. Donc vous travaillez avec du plexiglas, vous avez travaillé aussi avec la résine en glacis. C'est une matière quand même particulière aussi à utiliser, ça demande aussi de la force de travail.
Absolument, et chaque pièce est donc unique, mais c'est vrai que j'ai démarré avec le plexiglas que je fais chauffer, on va dire, dans un four, et ensuite je viens le travailler puisqu'il est malléable quand il est chaud, et c'est toujours une torsion, un drapé différent.
Exercice 3. Vous allez entendre un libraire présenter des livres. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, complétez les phrases 1 à 9 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonsoir à tous, nous sommes avec Xavier Capodanno de la librairie Le Genre Urbain, c'est à Paris. Xavier, bonsoir.
Bonsoir.
Xavier, il y a plein de livres qui sont sortis depuis la fin du confinement, plein de livres intéressants, à commencer par ce roman difficile à qualifier, un peu loufoque, un peu qui part dans tous les sens, Mauvaise graine de Nicolas Jaillet, et c'est publié à la Manufacture des Livres.
Oui, donc on va voir l'histoire d'une femme trentenaire bien dans sa peau, bien dans sa vie, de la vie moderne, tant dans son job que dans ses sorties loisirs. Et puis un jour, elle va tomber enceinte et elle ne s'explique pas cette grossesse. Donc déjà, première intrigue un peu loufoque qui fait faire un grand virage à 90 degrés au roman, parce qu'on était très accroché par sa vie et par sa trame. Mais surtout, ça va lui donner des super pouvoirs. Et à partir de là, on bascule dans autre chose. Mais ces super pouvoirs, ils vont être au service de beaucoup de ses rancœurs, de ses vengeances. Elle va mettre ça, elle va s'en servir, elle règle tous ses comptes. Je vous en dis pas plus, parce qu'il y a un vrai suspense. C'est vraiment écrit comme un polar. Je pense d'ailleurs nous-mêmes à la librairie, nous le mettrons dans cette catégorie. Alors c'est une lecture d'été absolument formidable.
Mauvaise graine de Nicolas Jaillet à la Manufacture des Livres. Livre étonnant celui-ci. Il y a une certaine appétence en ce moment pour le Grand Nord, pour les aventures dans ce monde sub-arctique, on va dire. Et là c'est Tania Tagak qui est une chanteuse inuite et elle sort un premier roman qui s'appelle, ou un récit qui s'appelle Crocs fendus. Et c'est publié chez Christian Bourgois.
Oui, c'est une sorte d'autofiction, puisqu'elle raconte, c'est elle-même qui raconte sa vie. Donc, on est dans ce territoire maintenant qui est autonome du Canada, qui s'appelle le Nunavut, donc le territoire des Inuits. Et ça va être un territoire pas très enchanteur. On est dans les années 70, c'est important. Et on voit aussi, elle essaye de raconter que devient l'âme de ce peuple. Et l'âme de ce peuple, eh ben, il est dans beaucoup de contradictions, dans beaucoup de tensions. Donc c'est la misère, c'est l'alcool, c'est des villages qui sont dans des états sociaux absolument très très difficiles. Mais c'est aussi la fantaisie, c'est aussi la fantasmagorie, c'est le rapport aux esprits. Et donc elle va vous raconter à travers sa vie, ses amours, ses joies, ses peines et ses tristesses, comment on essaye de combiner deux cultures. Donc on a tout ce côté du Grand Nord qu'on pourrait voir dans les voyages, mais on a aussi le revers de la médaille, c'est sensible, c'est incroyablement émouvant, c'est écrit vraiment au laser. Non, c'est un bouquin formidable.
Crocs fendus de Tania Tagak, publié chez Christian Bourgois. Tiens, un roman, l'un des romans anglais les plus intéressants. Il y avait eu à l'automne Le cœur de l'Angleterre de Jonathan Coe. Il y a Le cafard de Ian McEwan, publié chez Gallimard. C'est une fiction un peu folle, mais c'est une manière d'ausculter, on va dire, l'âme de l'Angleterre et l'âme un peu meurtrie de l'Angleterre avec les histoires de Brexit.
Assez de loin, le livre le plus corrosif que j'ai lu ces dernières semaines. Donc, il reprend un peu le mythe de Kafka, mais il fait tout à l'envers. Donc, c'est le cafard qui se transforme en premier ministre. Et ce premier ministre a une idée de faire ce qu'il appelle un programme, le réversalisme. Donc, on va tout inverser. Alors, imaginez que vous rentrez dans un magasin et le magasin vous donne de l'argent en tant que client et pas l'inverse. Ce sont les salariés qui donnent de l'argent à leur patron. Et même qui donne proportionnellement aux heures qu'il travaille. Et donc, à travers cette situation qui peut paraître absurde, il regarde évidemment par défaut, presque en négatif, évidemment cette Angleterre qui bascule dans un je ne sais où, dans un je ne sais quoi. C'est absolument redoutable. C'est un roman très très court. C'est terrible.
Bonsoir à tous, nous sommes avec Xavier Capodanno de la librairie Le Genre Urbain, c'est à Paris. Xavier, bonsoir.
Bonsoir.
Xavier, il y a plein de livres qui sont sortis depuis la fin du confinement, plein de livres intéressants, à commencer par ce roman difficile à qualifier, un peu loufoque, un peu qui part dans tous les sens, Mauvaise graine de Nicolas Jaillet, et c'est publié à la Manufacture des Livres.
Oui, donc on va voir l'histoire d'une femme trentenaire bien dans sa peau, bien dans sa vie, de la vie moderne, tant dans son job que dans ses sorties loisirs. Et puis un jour, elle va tomber enceinte et elle ne s'explique pas cette grossesse. Donc déjà, première intrigue un peu loufoque qui fait faire un grand virage à 90 degrés au roman, parce qu'on était très accroché par sa vie et par sa trame. Mais surtout, ça va lui donner des super pouvoirs. Et à partir de là, on bascule dans autre chose. Mais ces super pouvoirs, ils vont être au service de beaucoup de ses rancœurs, de ses vengeances. Elle va mettre ça, elle va s'en servir, elle règle tous ses comptes. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a un vrai suspense. C'est vraiment écrit comme un polar. Je pense d'ailleurs nous-mêmes à la librairie, nous le mettrons dans cette catégorie. Alors c'est une lecture d'été absolument formidable.
Mauvaise graine de Nicolas Jaillet à la Manufacture des Livres. Livre étonnant celui-ci. Il y a une certaine appétence en ce moment pour le Grand Nord, pour les aventures dans ce monde sub-arctique, on va dire. Et là, c'est Tania Tagak, qui est une chanteuse inuite. Et elle sort un premier roman qui s'appelle, ou un récit, qui s'appelle Crocs fendus. Et c'est publié chez Christian Bourgois.
Oui, c'est une sorte d'autofiction, puisqu'elle raconte, c'est elle-même qui raconte sa vie. Donc, on est dans ce territoire maintenant qui est autonome du Canada, qui s'appelle le Nunavut, donc le territoire des Inuits. Et ça va être un territoire pas très enchanteur. On est dans les années 70, c'est important. Et on voit aussi, elle essaye de raconter que devient l'âme de ce peuple. Et l'âme de ce peuple, eh ben, il est dans beaucoup de contradictions, dans beaucoup de tensions. Donc c'est la misère, c'est l'alcool, c'est des villages qui sont dans des états sociaux absolument très très difficiles. Mais c'est aussi la fantaisie, c'est aussi la fantasmagorie, c'est le rapport aux esprits. Et donc elle va vous raconter à travers sa vie, ses amours, ses joies, ses peines et ses tristesses, comment on essaye de combiner deux cultures. Donc on a tout ce côté du Grand Nord qu'on pourrait voir dans les voyages, mais on a aussi le revers de la médaille, c'est sensible, c'est incroyablement émouvant, c'est écrit vraiment au laser. Non, c'est un bouquin formidable.
Crocs fendus de Tania Tagak, publié chez Christian Bourgois. Tiens, un roman, l'un des romans anglais les plus intéressants. Il y avait eu à l'automne Le cœur de l'Angleterre de Jonathan Coe. Il y a Le cafard de Ian McEwan, publié chez Gallimard. C'est une fiction un peu folle, mais c'est une manière d'ausculter, on va dire, l'âme de l'Angleterre et l'âme un peu meurtrie de l'Angleterre avec les histoires de Brexit.
Assez de loin le livre le plus corrosif que j'ai lu ces dernières semaines. Donc, il reprend un peu le mythe de Kafka, mais il fait tout à l'envers. Donc, c'est le cafard qui se transforme en premier ministre. Et ce premier ministre a une idée de faire ce qu'il appelle un programme, le réversalisme. Donc, on va tout inverser. Alors, imaginez que vous rentrez dans un magasin et le magasin vous donne de l'argent en tant que client et pas l'inverse. Ce sont les salariés qui donnent de l'argent à leur patron. Et même qui donne proportionnellement aux heures qu'il travaille. Et donc, à travers cette situation qui peut paraître absurde, il regarde évidemment par défaut, presque en négatif, évidemment cette Angleterre qui bascule dans un je ne sais où, dans un je ne sais quoi. C'est absolument redoutable, c'est un roman très très court, c'est terrible.
Exercice 4. Vous allez entendre un reportage sur un projet proposé en Autriche début 2020. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à K pour compléter les phrases 1 à 8. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Direction l'Autriche, à présent on retrouve à Vienne notre correspondante Isor Yass. Bonjour Isor.
Bonjour à tous.
Vienne, la capitale autrichienne, a lancé hier une phase de test pour une application mobile pas comme les autres. L'appli doit permettre aux habitants qui se déplacent à l'aide de moyens de transport propres d'obtenir gratuitement des billets de spectacle ou des tickets de musée.
Oui, en effet, le principe est assez simple. Il faut d'abord télécharger cette application sur votre téléphone portable. Puis, lors de vos trajets quotidiens, au lieu de prendre la voiture, vous devez vous déplacer en transport en commun, en vélo ou à pied. Un système de traçage reconnaîtra le mode de transport utilisé et seront ainsi calculées les économies de CO2 que vous avez réalisées en favorisant un moyen de transport propre. Ce sont ces économies de CO2 qui vous donnent droit, passé un certain seuil, à des jetons culture, lesquels pourront ensuite être échangés contre des billets de spectacle ou des tickets de musée. Alors pour l'instant, l'application est en phase de test auprès de 1000 utilisateurs, mais si l'essai est concluant, elle sera proposée au grand public dès l'automne prochain. 4 institutions culturelles viennoises participent à cette période de test, mais au moins 9 autres seraient d'ores et déjà intéressées pour être associées au projet, notamment le célèbre musée du Belvédère.
Alors le but, Isor, c'est évidemment de réduire l'usage de la voiture dans la capitale autrichienne.
Oui, Vienne est déjà dans une bonne dynamique puisque le nombre de cartes annuelles de transport dépasse celui des voitures. Ce mois-ci, la compagnie qui gère les transports en commun viennois a d'ailleurs annoncé qu'aujourd'hui, 852 000 personnes détenaient une carte d'abonnement, un record dans cette capitale qui compte 1 900 000 habitants. La ville de Vienne veut donc encourager ce mouvement, un signal important pour la municipalité gérée par les sociaux-démocrates et les Verts, alors que des élections municipales doivent se tenir cet automne.
Isor, il n'y a pas qu'à Vienne qu'on souhaite inciter les habitants à privilégier des modes de transport propres ou plus propres.
En effet, c'est l'un des objectifs des Verts au niveau national. Les écologistes sont depuis janvier dernier au pouvoir dans une coalition inédite avec les conservateurs. Et dans le programme gouvernemental, ils affichent des ambitions sur cette question. Une des réformes emblématiques est la mise en place d'une carte qui ne coûterait que 3 euros par jour pour emprunter les transports en commun dans toute l'Autriche. Le gouvernement veut également faire passer la part des déplacements à vélo de 7 à 13% d'ici 2025 ou encore augmenter l'écotaxe sur les billets d'avion. Autant de projets dont la mise en œuvre est très attendue et sera scrutée par les défenseurs du climat.
Merci à vous Isor Yas en direct de Vienne, la correspondante de RFI en Autriche. Direction l'Autriche, à présent on retrouve à Vienne notre correspondante Isor Yas. Bonjour Isor.
Bonjour à tous.
Vienne, la capitale autrichienne, a lancé hier une phase de test pour une application mobile pas comme les autres. L'appli doit permettre aux habitants qui se déplacent à l'aide de moyens de transport propres d'obtenir gratuitement des billets de spectacle ou des tickets de musée.
Oui, en effet, le principe est assez simple. Il faut d'abord télécharger cette application sur votre téléphone portable. Puis, lors de vos trajets quotidiens, au lieu de prendre la voiture, vous devez vous déplacer en transport en commun, en vélo ou à pied. Un système de traçage reconnaîtra le mode de transport utilisé et seront ainsi calculées les économies de CO2 que vous avez réalisées en favorisant un moyen de transport propre. Ce sont ces économies de CO2 qui vous donnent droit, passé un certain seuil, à des jetons culture, lesquels pourront ensuite être échangés contre des billets de spectacle ou des tickets de musée. Alors pour l'instant, l'application est en phase de test auprès de 1000 utilisateurs, mais si l'essai est concluant, elle sera proposée au grand public dès l'automne prochain. 4 institutions culturelles viennoises participent à cette période de test, mais au moins 9 autres seraient d'ores et déjà intéressées pour être associées au projet, notamment le célèbre musée du Belvédère.
Alors le but, Isor, c'est évidemment de réduire l'usage de la voiture dans la capitale autrichienne.
Oui, Vienne est déjà dans une bonne dynamique puisque le nombre de cartes annuelles de transport dépasse celui des voitures. Ce mois-ci, la compagnie qui gère les transports en commun viennois a d'ailleurs annoncé qu'aujourd'hui, 852 000 personnes détenaient une carte d'abonnement, un record dans cette capitale qui compte 1 900 000 habitants. La ville de Vienne veut donc encourager ce mouvement, un signal important pour la municipalité gérée par les sociaux-démocrates et les Verts, alors que des élections municipales doivent se tenir cet automne.
Isor, il n'y a pas qu'à Vienne qu'on souhaite inciter les habitants à privilégier des modes de transport propres ou plus propres.
En effet, c'est l'un des objectifs des Verts au niveau national. Les écologistes sont depuis janvier dernier au pouvoir dans une coalition inédite avec les conservateurs. Et dans le programme gouvernemental, ils affichent des ambitions sur cette question. Une des réformes emblématiques est la mise en place d'une carte qui ne coûterait que 3 euros par jour pour emprunter les transports en commun dans toute l'Autriche. Le gouvernement veut également faire passer la part des déplacements à vélo de 7 à 13% d'ici 2025 ou encore augmenter l'écotaxe sur les billets d'avion. Autant de projets dont la mise en œuvre est très attendue et sera scrutée par les défenseurs du climat.
Merci à vous Isorias en direct de Vienne, la correspondante de RFI en Autriche.
C'est la fin du test de compréhension orale.